Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio se dispose également d'un salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la discussion. C'est sur causecommune.fm et vous cliquez sur chat. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Sur le site de l'association, april.org, vous trouverez une page avec les références utiles consacrées à cette émission. Nous sommes mardi 28 janvier 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous allons passer au programme du jour. Nous commencerons par la chronique, excusez-moi, ITSIC numérique d'Emmanuel Reva qui va nous parler de Facebook. Si, si, je vous assure. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera donc sur la plateforme Health Data Hub, qui est la plateforme d'exploitation des données de santé des patientes et patients français avec trois invités que nous présenterons tout à l'heure. Et en fin d'émission, ma collègue Isabella Vanni nous rejoindra pour présenter le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre de la région d'Orléans. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, Patrick Creusot. Allez, on va commencer par le premier sujet. Nous allons commencer par la chronique ITSIC numérique d'Emmanuel Reva, bon, qui normalement est avec nous par téléphone. Manu, est-ce que tu es avec nous ?
Oui, est-ce que tu m'entends ?
Alors, je t'entends. Alors, Manu, ta chronique du jour va porter sur Facebook. Bah, écoute, je te donne la parole.
Ouais, super. Ben oui, au début, je voulais parler de Firefox, mais bon, ça c'est compliqué. Et puis, finalement, je parlais un peu de Facebook. Et on sait bien qu'il y a plein de raisons de mépriser Facebook, comme sa conception addictive, l'accumulation excessive et dérégulée des données privées, la manipulation des utilisateurs, ainsi que de l'information elle-même, ou sa collaboration active avec la NSA et d'autres agences de renseignement. Ça va loin, son fascisme actif, etc., la suppression des comptes pages et selon les envies des chefs d'État, etc., etc. Non, en fait, je parlais un petit peu du Facebook et sa pratique, le fait que Facebook a pratiquement le monopole des liens sociaux. Alors, je vais raconter une petite histoire à côté. Vous connaissez un petit peu cette personne qui, dans votre groupe, dans votre entourage, qui ne dit pas grand-chose, plutôt silencieux, à l'écoute. Mais quand elle parle, on l'écoute, parce que c'est sans doute un truc intéressant. Eh bien, Facebook est en train d'assassiner cette personne, socialement en tout cas. Sur cette plateforme, on ne choisit pas vraiment où donner notre attention. C'est l'algorithme qui décide. C'est l'algorithme qui décide ce qui doit être mis en avant, et donc ce qui sera le plus lu, vu, et ainsi les gens qui seront populaires, et donc des gens qui auront un impact. Le Facebook décide ainsi activement des idées et des discours à propager. Alors c'est un algorithme certes, mais c'est le Facebook qui le met en place cet algorithme. Ce n'est pas neutre. Ton fil d'actualité n'est pas un fil chronologique de choses postées par les personnes et autres auxquelles vous êtes abonné. C'est un fil modifié par le Facebook pour optimiser leurs intérêts. Alors si tu ne nourris pas la machine, l'algorithme te punira et tu seras caché tout en bas du fil quelque part. Le Facebook a besoin de bouffer, et donc l'algorithme favorise les comptes qui le nourrissent. Alors si tu prends ton temps pour pondre un truc réfléchi, l'algorithme te jugera comme ayant peu de valeur publicationnelle. En gros, si tu ne parles pas tout le temps, c'est que tu n'as rien à dire. Alors ce genre de personne peut bavarder, peut faire plusieurs choses, mais en général c'est entre deux choix. C'est option 1, elle se casse de Facebook, elle se retrouve un petit peu isolée socialement, à moins d'avoir un cercle social majoritairement déconnecté. Ça existe, mais c'est même pas, même ici, loin de Paris, c'est pas si courant, où cette personne se retrouvera de plus en plus en dehors de ce qui se passe ou ce qui se dit. Option 2, elle apprend les règles de la nation Facebook. Et dans la nation Facebook, une nation très très capitaliste, il faut travailler. Il faut nourrir l'animal algorithmique et mettre son cerveau à disposition. Mais il faut commenter les publications sans intérêt, il faut liker les trucs qu'on n'aime pas forcément, mais ça fait tellement plaisir aux autres. Et puis si je like les autres, eh ben ils vont se sentir obligés de liker mes trucs aussi, c'est un investissement. Il faut être présent sur le média de manipulation des masses, qui est Facebook, et mériter son rang social. Like et sois liké. Vive la nation du partage. D'ailleurs, je mets partage entre de gros guillemets, car en fait, on partage surtout les travaux des autres. Et en plus, le créateur du contenu réel sera souvent même pas crédité. Et le partageur pourra gagner quelques likes et la plateforme, elle, bah, gagne à tous les coups. Alors tout ça, ça me fait penser un peu à une étude qui a été faite par des universitaires américains et mise en place par un parc en France. En gros, ils ont appris à des corbeaux à faire des choses pour eux. Alors ça commence, oui, je sais que c'est un petit peu en dehors du sujet de l'informatique, mais il y a un lien. Alors ça se passe un peu comme ça. Au début, des chercheurs ont mis une machine, une sorte de distributeur automatique, et ils ont mis des cacahuètes et des pièces de monnaie un peu partout autour, par terre. Et les corbeaux sont venus manger et se sont habitués à la présence d'une machine en plein milieu de leur milieu habituel. Après, ils ont arrêté les cacahuètes gratos. Il a fallu que les corbeaux, au bout d'un moment, comprennent que ce qu'il faut faire, c'est mettre les pièces qui sont par terre dans la machine pour qu'elle distribue les cacahuètes. Alors, cette expérimentation a été poussée plus loin, au parc du Puy du Fou, où ils ont entraîné les corbeaux à ramasser les déchets et les déposer dans une machine qui délivre des croquettes. Alors ça, c'est la preuve que les corbeaux sont intelligents. On a réussi à apprendre aux corbeaux à faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Et ce que l'on veut, c'est qu'on leur a appris à ramasser les déchets des autres pour nourrir la machine et ainsi recevoir une récompense. Et en gros, Facebook, c'est ça. On prend les déchets des autres, qu'on retrouve n'importe où sur le web, et on le met dans la machine et on se chope des likes. Et avec ces likes, on s'assure une survie sociale 2.0. Alors c'est la preuve que les humains sont intelligents. On a réussi à apprendre aux humains à faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Et les humains sont intelligents, mais peut-être pas assez intelligents pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Voilà, merci Fred.
J'attendais la conclusion en fait. Comme je n'avais pas ta chronique à l'avant, je ne savais pas jusqu'où tu allais. C'est un peu le plaisir d'ailleurs des chroniques Itzik numérique et la chronique aussi La Pituite de Luc. Où, la dernière fois, il m'a raconté qu'il était au WC tout en voulant me parler d'Amazon. En tout cas, on mettra les références sur cette étude de Corbeau. Et je suppose que le mois prochain, tu vas nous parler de Firefox et des récentes annonces autour de Mozilla.
Oui, je vais essayer de faire un truc un peu plus réfléchi avec un peu plus de recul parce que c'est compliqué comme problématique.
Tout à fait. En tout cas, je te signale que sur donc, le salon web, Marie-Odile a trouvé ta chronique très bien. Voilà. Et Marie-Odile qui a, évidemment, aura le plaisir en plus de la transcrire vu que c'est notre principale personne qui transcrit les chroniques. Bah, écoute, je te remercie Manu. Donc c'était la chronique Itzik numérique. Ton site web, c'est oga.fr. Alors oga avec un H, ouais. Hein, je précise. Et évidemment, sur le site de l'April, on retrouve évidemment toutes les autres chroniques que tu as pu faire et on se retrouve le mois prochain.
Ouais, super.
Je te souhaite une belle journée.
Frédéric. Toi aussi.
À bientôt.
Au revoir.
Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter C'est du propre par Patate Rats. On se retrouve juste après. Au micro, juste après, ce sera mon collègue Étienne Gonu. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
93.1.
Des frichons l'affreux à la faux avant d'étouffer sous la crasse. Du prix, j'en suis à trop, faut que ce soit net et bien en place. De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace sans déranger. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts. Faut aimer si ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Cette manique et un recours afin de m'empêcher de flancher, enchaîné à cette idée fixe.
J'ai cette pensée
que tu dois être parfaitement lisse. Donc j'ai cette pensée. Serrer la vis pour dresser la vis, c'est ma devise. C'est mon habit de masquer les vis. Que ce soit... suis dans mon lit quand je suis enfermé à huis clos chez moi. Mais n'allez pas croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Vouloir une vidange, j'ai pas une vidange, j'ai vite se retrouver avec une vie vide. Tant je l'ai vidange, je préfère semer la passion sans raison et je suis prêt à vendanger. Tout oublier que passer mon temps à penser à vivre à jet. C'est du pop qu'il nous faut, c'est du pop qu'il nous faut. Saleté trop de défauts, c'est du pop qu'il nous faut. Et puis si ça sent une faute, c'est du pop qu'il nous faut. C'est du pop qu'il nous faut, ça déporte trop. C'est du pop qu'il nous faut, saleté trop de défauts, c'est du pop qu'il nous faut. Et puis si ça sent une faute, c'est du pop qu'il nous faut.
Nous venons d'écouter C'est du propre par Patate Rats, disponible sous licence art libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant avec mon collègue Étienne Gonu.
Merci Fred. Effectivement, donc comme tu l'as annoncé en introduction, nous allons parler du Health Data Hub. Je pense qu'on peut traduire ça assez directement en français par plateforme de données de santé. Donc j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Combe. Donc vous étiez jusqu'à récemment chef du projet du Health Data Hub au sein de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques DRES. Et donc vous êtes à présent directrice de cette plateforme de données de santé. Donc le but est de permettre la recherche sur ces données justement. Et une plateforme qui est donc issue de l'article 41 de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui date donc de juillet 2019. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Par ailleurs, nous sommes avec Nicolas Paris, ingénieur Big Data dans le milieu hospitalier. Alors Big Data, c'est vrai que c'est ce mot assez marketing qu'on entend régulièrement, mais qui en gros c'est de la recherche statistique sur un très grand nombre de données. On trouvera peut-être un peu dans le détail de ce que cela signifie. Donc Nicolas Paris met en place les pipelines de récupération des données de santé. Et vous êtes par ailleurs donc secrétaire de l'association Interop qui vise à fédérer des bases de données de recherche au niveau national avec un accent sur les logiciels et algorithmes libres. Et Adrien Parot, vous êtes vous président de cette association, médecin et ingénieur. Alors, nous vous invitons parce que vous avez, pour parler de ce sujet, est-ce que vous avez en tant qu'association exprimé des inquiétudes et critiques sur ce projet, dès l'adoption, il me semble, du projet de loi, donc politiquement dès l'adoption du texte. Et vous avez publié une tribune en ce sens le 10 décembre, quelques jours après le lancement de la plateforme, et une tribune voilà que l'April avait signée pour différentes raisons, les motivations de cette opposition. Mais on va revenir très rapidement dessus. Et je pense qu'il est peut-être intéressant, parce que le sujet est quand même assez vaste et complexe, et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être de poser quelques bases de compréhension, et notamment, qu'est-ce qu'une donnée de santé, pourquoi est-ce que c'est important de permettre des recherches informatiques sur ces données de santé. Si vous voulez en profiter d'ailleurs pour compléter les très brèves introductions que j'ai pu faire, Stéphanie Comte, donc je peux avoir votre avis là-dessus.
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Évidemment, je pense que on peut donner un très grand nombre d'exemples d'usages innovants et intéressants des données de santé. Donc, je pense que je serai complétée par Nicolas et par Adrien. Donc, moi, je peux vous citer quelques exemples des projets pilotes qu'on accompagne déjà aujourd'hui, qui sont, à mon sens, assez illustratifs. Donc, vous avez, par exemple, une start-up qui s'appelle Implicity, qui gère des dispositifs médicaux type pacemaker ou défibrillateur, qui génèrent de la donnée. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser ces données générées par les pacemakers, par exemple, pour développer des outils d'alerte, pour notifier le professionnel de santé si le patient, du coup, qui a quand même un dispositif médical dans son corps, commence à avoir son état de santé qui se détériore, et pour pouvoir, du coup, anticiper avant que ce patient se retrouve aux urgences. Donc ça sera un exemple. Mais vous avez aussi, par exemple, le centre Léon Bérard qui contribue à l'un des projets pilotes sur la réutilisation d'une cohorte sur le sarcome. Donc le sarcome, c'est un cancer très rare. Et comme il est très rare, on n'a pas assez de patients pour faire des essais cliniques. Donc on ne sait pas très bien évaluer l'efficacité des traitements. Et donc là, ce qui sera intéressant de faire, c'est enrichir la cohorte qui suit du coup ces patients avec d'autres sources de données, par exemple les données de l'assurance maladie, qui vont permettre de construire des parcours de soins avec toutes les consommations de médicaments ou d'actes médicaux tout au long de la vie de ces patients-là. Et donc de vraiment regarder, est-ce qu'une chimiothérapie marche mieux ou moins bien qu'une chirurgie sur ce type de patient. Donc ça va vraiment permettre d'améliorer la connaissance du système de santé. Je vous donne un troisième exemple et puis je m'arrêterai là, mais je serai peut-être complétée. On va avoir la possibilité de développer des outils qui vont permettre d'aider à la prescription des médicaments dans des contextes où les gens vivent plus longtemps et du coup leur situation clinique peut vraiment se compliquer. C'est-à-dire que on fait plus un cancer et puis on décède, mais on va potentiellement faire plusieurs cancers, puis avoir en plus un diabète, puis avoir en plus un certain nombre de comorbidités. Donc je suis pas la médecin du groupe, donc je laisserai compléter, mais du coup on peut se retrouver en difficulté quand on est médecin sur le bon traitement à donner à un patient, parce que ça peut avoir un effet secondaire lié à ses pathologies multiples. Et donc là, l'intelligence artificielle, par exemple, permettrait d'identifier des patients qui ont des contextes cliniques proches dans des grosses bases de données, et donc d'orienter les prescriptions des médecins en prenant en compte le risque d'interaction médicamenteuse nocive ou la possibilité de prescrire quelque chose qui risque d'avoir un impact positif sur la situation du patient. Donc voilà trois exemples, mais on pourrait vraiment en citer un grand nombre. Et puis les projets pilotes qu'on accompagne sont déjà plusieurs illustrations de ce qu'on peut faire avec des données de santé.
Alors, je pense qu'on reviendra sur la notion d'intelligence artificielle qui me semble assez présente, mais je pense que ça méritera qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, du coup, si je peux avoir aussi votre avis côté Interop sur l'importance des recherches sur les données de santé, qu'est-ce que pour vous une donnée de santé? Si vous voulez aussi préciser l'introduction que j'ai pu faire.
Qu'est-ce qu'une donnée de santé? J'aime bien distinguer les données du phénome, du génome et de l'exposome. Donc le phénome, c'est tout ce qui va être apparent, les symptômes, et donc dans ce registre, on va trouver les données d'imagerie qui finalement représentent l'intérieur de notre corps. On va aussi avoir les diagnostics qui sont faits par les médecins et tous les rapports textuels, par exemple sur des comptes rendus qui peuvent être aussi des comptes rendus psychiatriques qui sont faits sur les patients, mais en réanimation ou dans les urgences, on a tout un tas de notes qui sont en texte libre. On va avoir aussi les données de moniteurs temps réel sur les ECG, les électroencéphalogrammes. Donc ça, c'est des données de nature très différente. Les données génomiques, ça va être les bases azotées qu'on va analyser sur des pipelines de bioinformatique pour caractériser des maladies via les gènes et donc cette empreinte très personnelle que chacun a. Et puis alors l'exposome, c'est finalement dans quel contexte on est. Est-ce que par exemple on est soumis à des feux de forêt depuis des mois? Est-ce que ça a une implication sur le déclenchement de certaines maladies? Ou alors si on vit en ville avec un taux de pollution, aujourd'hui il y a de plus en plus de capteurs qui permettent de finalement récupérer des données qui peuvent devenir d'intérêt de santé.
Si je peux récolter. Donc le phénome, c'est plus les données qui vont nous concerner notre intégrité physique, nous-mêmes, et l'exposome, le contexte dans lequel on va évoluer, mais qui va avoir un impact sur notre santé.
Voilà, c'est une façon de distinguer ces types de données. Et alors, sur les cas d'usage pour exploiter ces données, je pense qu'il y a effectivement des cas d'usage en IA très avancés qui peuvent être utiles,
mais intelligence artificielle.
L'apprentissage machine, en tout cas. Je pense tout de suite finalement la fluidification des échanges entre les médecins. Aujourd'hui, les médecins de ville ont pas souvent accès à ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc là, il y a des choses à faire sur ces données, des choses innovantes pour que les patients puissent récupérer leurs informations, éviter d'avoir plusieurs fois répéter les mêmes choses aux différents praticiens. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire qui peuvent utiliser des mécanismes pragmatiques et en exploitant les données. Et évidemment, il y a des choses plus avancées en IA, ne serait-ce que pour exploiter les textes dans lesquels on aimerait récupérer les noms des médicaments pour enrichir les données qui seront ensuite analysées par des statisticiens. Donc ça, c'est des cas d'usage très basiques, mais ce qui ne sont pas du tout mis en œuvre en production de manière très marginale aujourd'hui dans les centres hospitaliers, à ma connaissance.
D'accord. On voit déjà, en tout cas, on ressent l'intérêt et la pertinence de faire ces recherches. Avant qu'on avance, est-ce que vous vouliez compléter, Adrien? Je pense qu'on a un bon tour du sujet, mais...
Je voulais juste dire qu'en fait, les données, l'exploitation des données en santé, c'est pas quelque chose de récent, finalement. Et que, après, ça dépend comment, du coup, on définit l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, le pouvoir, enfin, l'importance des données en médecine, c'est une idée qui date des années 80 avec l'evidence-based medicine, qui est, du coup, la médecine fondée sur les preuves. Et donc, c'est pas une idée nouvelle de dire qu'on pense que les données vont soigner mieux les patients. C'est même ce que l'on fait depuis 40 ans maintenant, au moins. Du coup, juste pour voilà, pour et rapidement peut-être une définition d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un processus effectué par un ordinateur, du coup, qui décharge un opérateur, tout simplement, et un système expert, donc à base de règles. Donc, c'est si j'ai ça, je fais ça. Si j'ai pas ça, je fais pas ça. Enfin, une série, une recette de cuisine, en fait, ça peut être défini comme de l'intelligence artificielle. Et donc, à ce titre-là, en fait, en médecine, on le fait aussi depuis des années maintenant. Ce qui change, c'est le volume des données et le big data, la plateforme big data que vous mentionniez. Donc, c'est ça. Et pouvoir rendre ce gros volume de données intelligible et en faire quelque chose.
Oh, très bien. Vous m'offrez justement une transition à la question qui me venait ensuite. Parce qu'en préparant l'émission, moi, j'ai quand même essayé de m'informer un peu. Et donc, je vois qu'avant, nous avions un Institut national des données de santé, un système national des données de santé. Donc, ça, c'était le contexte actuel. Pourquoi est-ce qu'il a fallu le changer? Quelle est la raison d'être là? Donc, on a eu un projet de loi pour amener autre chose. Quelle était cette situation actuelle? Qu'est-ce qui fonctionnait mal, entre guillemets? Et pourquoi il a fallu évoluer, Stéphanie Combes?
Alors, nous, ce qu'on a voulu porter comme évolution par rapport à une situation qui avait déjà marqué un gros progrès, hein, puisque la loi de 2016, avec la création du système national des données de santé dans la loi de modernisation du système de santé, c'était déjà un vrai pas en avant par rapport à l'existant. Alors, c'est pas forcément sur la prise de conscience sur l'utilisation des données où je rejoins ce qui vient d'être dit et que ça n'est pas spécialement nouveau, mais c'est plutôt sur les difficultés à accéder aux données en France, même pour des projets de recherche. Les demandes administratives, les procédures administratives pouvaient prendre des années. Pour faire un appareillement, il fallait un décret en Conseil d'État. Donc un appareillement, c'est un rapprochement entre deux bases. Et par rapport à ça, on n'était pas dans des délais qui sont acceptables aujourd'hui pour l'innovation. L'Institut national des données de santé, il faisait déjà une première chose, c'est accompagner les demandeurs et donc leur aider à comprendre dans quel contexte ils se trouvaient, comment ça marchait une demande d'autorisation auprès de la CNIL, quels étaient les documents à fournir, qu'est-ce que c'est que l'intérêt public, comment se fait l'information aux patients. Donc c'était déjà un vrai service administratif qui, pour ce que j'en ai entendu dire, était vraiment apprécié. Mais ça s'arrêtait là.
Je précise juste que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui s'occupe justement d'appliquer, de gérer la bonne application du règlement général des données personnelles maintenant. Voilà.
Exactement. Et c'est la seule qui est habilitée à autoriser un traitement sur les données personnelles et notamment de santé. Donc l'Institut national des données de santé qui a été repris dans le Health Data Hub. Donc les anciens entre guillemets employés de l'INDS sont aujourd'hui mes collègues et je travaille tous les jours avec eux. On a souhaité élargir ces missions pour aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement des utilisateurs. Et notamment, on a voulu rendre cette entité capable de traiter elle-même les données pour pouvoir prendre à sa charge tout ce qui est chaînage de données, préparation des extractions, etc., quand c'était souhaitable, et notamment tous les chaînages des données avec les données de l'assurance maladie. Donc les données de l'assurance maladie, comme je le disais précédemment, elles ont cet intérêt majeur d'offrir une vision, un parcours de soins sur l'ensemble de la population française, puisqu'on a la chance en France d'avoir un système centralisé et donc d'avoir une base de recherche qui porte sur 66 millions de Français avec toutes les consommations d'actes médicaux et de médicaments. Donc elle est aussi jugée comme étant très imparfaite puisque elle manque d'informations purement médicales. Il n'y a pas les comptes rendus médicaux qui ont été évoqués tout à l'heure, les images ou les résultats d'analyse biologique. Mais si vous prenez par exemple un registre très précis où vous allez avoir des informations très fines sur une chirurgie, souvent ce que le clinicien va vouloir derrière, c'est savoir s'il y a eu des effets secondaires, des complications. Donc il va essayer d'appeler ses patients 6 mois plus tard. Et moi, ce qu'il me disait, c'est que il y avait la moitié des patients qui n'arrivaient pas à joindre. Donc ils ne savent pas s'ils sont décédés, s'il y a une complication ou s'ils ont simplement déménagé ou changé de numéro. Avec le chaînage avec les données de l'assurance maladie, en un traitement relativement simple, bon, évidemment c'est toujours un peu compliqué parce que les données n'ont pas été collectés à des fins de recherche, vous pouvez voir si la personne a eu une complication, une réhospitalisation, etc. Donc avec le Health Data Hub, on a voulu permettre ça plus facilement, donc le chaînage avec ces données et les traitements, et aussi accompagner mieux les utilisateurs dans toutes les démarches administratives, avec notamment un travail avec les autres bases de données qui existent, parce que je parle beaucoup des données de l'assurance maladie, mais il y a évidemment les bases hospitalières dont on va, j'imagine, beaucoup parler, mais il y a aussi des cohortes de recherche, des registres en tout genre, avec à chaque fois des gouvernances spécifiques, des règles d'accès spécifiques. Ça manque de transparence, ça manque d'uniformisation. Donc avec le Health Data Hub, on a aussi envie d'aller vers quelque chose de plus clarifié, transparent, et que pour des gens qui portent un projet d'intérêt public, ce soit plus clair de savoir avec quelles données ils peuvent faire quoi, à quel moment, quelles sont les étapes, etc.
Avant de passer à part interne, vous avez plusieurs fois évoqué chaînage de données. Je pense que vous avez un peu expliqué ce que c'était, mais c'est peut-être le redire, parce que je pense que j'ai l'impression que c'est une notion importante.
Oui, pour moi, c'est une des notions les plus importantes, parce qu'on sait faire des choses aujourd'hui sur des jeux de données, des bases de données qui sont homogènes. Par exemple, on sait faire des choses très intéressantes sur des images. On sait détecter, par exemple, des tumeurs sur des mammographies. On va savoir détecter des irrégularités sur des données de signaux. On sait aussi un peu traiter les données de l'assurance maladie qui sont médico-administratives, mais les usages de demain, c'est traiter ces données mises ensemble. Donc vraiment rapprocher dans une même base des données qui vont être par exemple de l'imagerie et des données de consommation de médicaments ou de passage à l'hôpital. Ça va permettre aux gens de voir à la fois le résultat ou par exemple l'évolution d'une tumeur sur une mammographie et les informations relatives au passage à l'hôpital de ces patients. Alors qu'aujourd'hui, les données sont cloisonnées, elles sont traitées de manière un petit peu distincte les unes avec les autres, parce qu'on est peu capable de les mettre ensemble au même endroit, à part dans certaines initiatives comme les entrepôts de données hospitaliers pour ceux qui sont les plus avancés, et le Health Data Hub qui vise à faire ça de manière plus massive encore au niveau national. Très bien. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
Les auditeurs nous le diront, mais moi ça me semble clair en tout cas. Et j'ai l'impression que vous touchez peut-être à un point assez névralgique, peut-être des débats qu'il peut y avoir autour de la solution proposée par Health Data Hub et d'autres positions qu'il peut y avoir, sur des centralisations. Et je sais qu'il y avait notamment eu au moment de tel projet de loi, c'est-à-dire qu'il proposait donc ce système-là, sur des centralisations. Et notre une opposition, vous évoquiez d'entrepôt de données de santé. J'ai l'impression que c'était un peu le sens de la critique peut-être. Un des aspects de la critique qui avait pu être évoqué par votre association, Nicolas, Adrien, est-ce que vous souhaitez...
Ouais, du coup, les problématiques de cloisonnement des données et de promouvoir la recherche, évidemment, on les partage et on est tout à fait d'accord. On suit totalement. C'est vrai que et dans le cadre d'Interop que vous aviez présenté un petit peu tout à l'heure, c'était d'initier à partir du même constat une fédération, notamment d'entrepôts de données de santé, mais pas forcément que, mais d'entrepôts de données de santé en particulier, donc de d'endroits dans les hôpitaux où déjà les ingénieurs essaient d'améliorer la qualité des données et déjà de faire de l'intelligence artificielle, donc c'était ça, et de décloisonner autour de modèles communs, donc de standardiser un petit peu des données pour que on n'ait pas besoin de faire voyager les données d'un centre à l'autre, mais que par contre on puisse partager des algorithmes et faire évoluer la recherche ensemble à l'échelle française, européenne et peut-être même mondiale. Enfin, c'était ça donc constat partagé. Mais c'est vrai que je dirais vision des choses différentes dans le sens centralisation, décentralisation et fédération. Nous, peut-être le modèle, ça serait plus du federating learning, qui veut dire de l'apprentissage fédéré. Donc c'est des méthodes qui permettent basiquement de partager des algorithmes entre des centres différents. Ça serait un peu ça notre...
Vous évoquez la fédération et c'est vrai que c'est un concept qui est très important, notamment dans les communautés Libris, quand on réfléchit en termes de système d'information. En quelques mots, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce que ça veut dire un système fédéré?
Oui, alors il y a des bons exemples qui sont sortis dans des écuries Framasoft. Je peux citer PeerTube ou le réseau Fediverse, qui sont en fait des équivalents de YouTube et aussi de Twitter. Et... l'idée, c'est au lieu de centraliser les données dans une seule instance qui du coup a des faiblesses, hein, c'est un colosse au pied d'argile puisqu'il suffit de couper l'instance pour que tout le monde perde l'information, ou alors simplement qu'un hacker exploite les données pour récupérer des millions et des millions de profils. Là, la méthode décentralisée consiste à installer des myriades de serveurs
chez des particuliers ou enfin de créer un réseau qui va stocker de manière décentralisée, donc distribuer des petites parties d'informations, ce qui fait que il faudrait pour le hacker récupérer tous ces fragments pour avoir l'information globale. Donc ça a comme intérêt effectivement de limiter les ressources et les coûts et de fédérer ces aspects-là, mais ça aussi pour intérêt d'apporter de la sécurité à ces réseaux en fragmentant l'information.
Et du coup, donc là, on a parlé en effet de Framasoft du milieu plutôt du libre, et il y a aussi des acteurs mondiaux qui font ça, donc Apple qui avec Siri, son assistant vocal, donc Siri apprend les voix de façon décentralisée de téléphone en téléphone. Ça, c'est déjà effectif. Donc c'est une technologie qui est en cours de déploiement et d'évolution. Hein, c'est sûr. Mais des grands acteurs s'en emparent. Hawking, qui est un autre membre de l'écosystème de start-up français, j'en parle aussi parce qu'ils ont préfiguré, ils ont participé à la mission de préfiguration du Health Data Hub. Donc voilà, des acteurs montent en technologie et en compétences sur ce genre de technologie-là, sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément besoin de faire d'apprentissage fédéré, et on peut déjà par exemple la PHP, si on a, je sais pas, il y a 8 millions, 9 millions de patients, donc des algorithmes peuvent déjà être entraînés à l'intérieur d'un seul hôpital et répondre à certaines questions. Ça aussi, c'est du possible.
Là, donc, peut-être avant de repasser la parole à Stéphanie Combe pour...
Ce que je voulais ajouter, c'est que donc Framasoft a été un modèle pour la création de cette association. Le constat, c'est qu'à l'international, il y a pas mal d'initiatives de démarrage, en fait, de projets tels que le Hub, où, donc, par exemple, aux États-Unis, il y a des réseaux énormes d'hôpitaux qui se fédèrent avec une approche plutôt bottom-up, depuis les centres vers des réseaux. En Allemagne, il y a un projet qui a démarré il y a 4-5 ans maintenant, qui a aussi cette volonté d'exploiter les données. Et ça, c'est un premier point. Et il s'avère que les hôpitaux ont tous des data centers. Donc historiquement, les hôpitaux ont besoin d'exploiter de la donnée. Ça fait 20 ans qu'ils ont des outils et qu'ils récoltent des données, et on a l'obligation de les garder pour certains cas jusqu'à 40 ans d'historique. Donc en fait, on a déjà tout le mécanisme à disposition, et j'ajouterais que tous les outils, en fait, Big Data ou Data Science, donc c'est-à-dire tout ce qui va être Python pour faire du machine learning et que tout le monde utilise, sont open source avec des licences libres, tous les outils de plateforme Big Data qui sont issus en fait des expérimentations et dans les banques, dans les réseaux sociaux, sont mis à disposition et nous sont accessibles. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour créer ces réseaux décentralisés. Donc l'enjeu d'Interop, c'est de partager sur ces pratiques, de partager à la fois le code source, mais aussi les algorithmes et d'une certaine manière les terminologies, parce que on l'a pas abordé, mais toutes ces données, on a vu la diversité, elles sont très complexes et elles sont surtout très hétérogènes. D'un hôpital à l'autre, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes façons de les classifier, et donc il y a un énorme travail pour que on puisse avoir un modèle commun pour pouvoir lancer ces algorithmes.
Vous souhaitez réagir, Stéphanie Combe?
Oui, je pense que je suis là pour ça. Donc moi, j'ai pas de philosophie. Enfin, je défends pas une position plus qu'une autre. Le fait qu'on mette en place cette plateforme de partage de données de santé n'est pas incompatible, et ça, c'est quelque chose sur lequel on a insisté à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'en parler, avec les entrepôts de données de santé hospitaliers qui se mettent en place et qui existent déjà. Enfin, moi, je ne vais pas interdire de quel droit j'interdirais à d'autres de monter leur plateforme. En revanche, s'il y a des acteurs qui sont avancés, c'est notamment le cas effectivement de l'entrepôt de données de santé, de la PHP et de quelques autres, il y en a qui n'ont pas vraiment commencé, qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc effectivement, on a des logiciels avec des licences libres, mais les ingénieurs, ils sont pas si faciles à recruter. Souvent, il y a des problématiques de plafond d'emploi, donc ça veut dire que il y a pas de poste ouvert dans ces types d'établissements pour ces profils-là. Enfin, moi, je viens de l'administration des ministères, donc je connais bien ces difficultés. Et il y a souvent aussi des grilles de rémunération qui sont très restrictives et qui font que ce type de profils qui sont assez recherchés sur le marché du travail, même si on n'est pas capable de les payer au même niveau qu'un Google ou qu'un Facebook, on voudrait quand même pouvoir être attractif et qu'ils se disent pas qu'ils sont sous-payés dans le public. Donc nous, ça fait partie d'ailleurs de l'accompagnement qu'on propose à nos projets pilotes, c'est de recruter en propre au niveau de notre structure ce type de profil en ayant travaillé sur des grilles de rémunération qui sont beaucoup plus proches des grosses startups, donc pas au niveau des très grosses boîtes américaines, évidemment on n'est pas capable de suivre, mais en tout cas au-dessus des ministères ou des entités administratives plus traditionnelles. Donc nous, on se propose de les recruter chez nous et de les mettre à disposition de nos partenaires pour essayer déjà de dépasser ce frein-là. Après, sur la partie fédération ou entrepôt, il faut bien voir que nous, notre périmètre d'action est bien au-delà des seules données hospitalières. On s'intéresse aux données de l'assurance maladie qui aujourd'hui étaient et sont d'ailleurs encore aujourd'hui inaccessibles pour les usages innovants type data science. Donc peut-être qu'on a effectivement les outils type R, Python disponibles, mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur ces données-là avec ces outils-là. Donc ça, c'est un vrai frein à l'innovation. Et moi, quand j'étais au ministère, on a dû monter un serveur spécifique pour pouvoir installer ces logiciels pour que les data scientists puissent travailler sur ces données avec ces logiciels-là. Et il y a à peu près 2 ou 3 équipes en France aujourd'hui, alors que ces données-là, c'est quand même un asset considérable qui pourrait vraiment faire avancer la recherche dans de multiples domaines, qui peuvent développer ce type d'usage. Donc pour moi, ça, c'est un vrai problème. Et après, on a d'autres sources de données, donc les registres qui sont dans les agences sanitaires, par exemple, avec qui on échange beaucoup, donc Santé publique France, l'agence de biomédecine, etc., qui ne sont aujourd'hui sous-utilisés et qu'on ne peut pas forcément traiter avec des usages innovants. Après, il y a le cas particulier des hospitaliers, qui, à mon avis, est complexe, parce qu'effectivement, un registre ou une cohorte de recherche, c'est assez clairement défini. Par contre, un entrepôt de données de santé hospitalier, ça va vraiment dépendre de là où l'accent a été mis au niveau de l'initiative. Donc, est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les comptes rendus médicaux? Est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur l'imagerie? Ou est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les données structurées type biologie, microbiologie, pharmacie? Moi, j'ai pas mal d'échanges avec certains hospitaliers, puisque je pense qu'il y a un vrai truc à faire ensemble. Et par exemple, j'étais à Bordeaux il y a 2 semaines et ils disaient qu'ils avaient complètement laissé de côté les données d'imagerie parce qu'ils sont pas en capacité de les stocker. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que le hub peut apporter. Donc moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et nous, on n'est pas du tout contre. Au contraire, ça ne marchera que si c'est partenarial. Le fait que d'autres développent des plateformes. En revanche, ça représente un coût. Il y a un niveau de sécurité qui est exigé. Moi, j'avais vu des présentations très séduisantes sur le edge computing et la mobilisation de capacités de calcul maintenant dans les objets connectés, etc. J'avais demandé à l'INRIA où ils en étaient au niveau de la sécurisation de tout ça. Aujourd'hui, c'est des aspects qui sont absolument pas pris en compte dans les référentiels de sécurité des données de santé. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire ça et respecter la loi. Et les entrepôts de données de santé qui se mettent en place, ils doivent respecter la loi. C'est-à-dire qu'ils doivent se mettre au niveau du référentiel de sécurité des données de santé. Et aujourd'hui, moi, j'en connais qu'un seul qui l'a fait. Et ce référentiel, il est sans doute critiquable. Mais le problème, c'est que c'est un texte réglementaire. Donc, on doit le respecter, nous, les premiers. Donc, nous, on a fait cet effort-là. Ça nous a pris 1 an pour nous mettre au niveau de ce texte-là. Donc, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a un terrain de jeu qui n'est pas illimité, qu'on a beaucoup de contraintes et que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus au niveau national avec des financements dédiés et des outils mutualisés. Maintenant, s'il y a d'autres acteurs publics ou privés qui sont capables de se mettre à ce niveau-là avec leurs propres moyens qui l'ont identifié comme une priorité, ce qui n'est pas forcément le cas d'un hôpital qui peut avoir d'autres priorités au niveau de la prise en charge des patients, même si on sait, nous qui venons du monde de la donnée, que si on investit sur la donnée, ça va améliorer à terme la prise en charge, ils sont pas forcément capables de mobiliser des enveloppes financières qui sont nécessaires pour arriver au bon niveau de sécurité des technologies. Même si on part sur du logiciel libre, etc. Les exigences de sécurité, c'est par exemple tracer absolument tout ce qui est fait dans les logiciels et être capable de les analyser. Donc ça nécessite de mettre en place ce type de processus. Donc moi, je discute aussi avec des acteurs hospitaliers, par exemple du Grand Est, qui sont extrêmement intéressés de voir comment on peut travailler ensemble et si on peut cofinancer leur effort de développement d'entrepôts hospitaliers qui sont de toute manière pour le hub utile puisque le hub va pas se mettre lui-même à collecter les données. Le hub travaille avec des gens qui collectent localement les données. Par exemple, la CNAM, elle collecte toutes les feuilles de soins, les milliards de feuilles de soins sur tout l'État. C'est pas le hub qui va faire ça demain. On travaille avec des gens qui réunissent les données d'enquête, qui réunissent des données de recherche et qui vont continuer de le faire. En revanche, la mise à disposition à des tiers de manière sécurisée, ça, on propose de le mettre à disposition de nos partenaires. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a notre offre de valeur. À nouveau, si les gens n'en ont pas besoin, on ne l'impose pas.
Entendu. On va peut-être faire une pause musicale si vous souhaitez réagir peut-être rapidement. Puis après cette pause, on peut-être qu'on regardera des considérations plus techniques de comment justement fonctionne le S-Data Hub.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Calling Out par Aeroed, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre la discussion autour de la plateforme d'exploitation des données de santé Health Data Hub avec nos invités. Je repasse la parole à Étienne Gonu.
Merci Fred. Donc je suis toujours avec Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub, et Adrien Parot et Nicolas Paris, qui sont respectivement président et secrétaire de l'association Interop, et à qui je vais redonner la parole.
Oui, donc on discutait effectivement des difficultés d'embauche dans le secteur public, et en particulier dans le milieu hospitalier. J'en profite pour passer un message à tous les libristes qui sont intéressés. Et c'est pas souvent facile de trouver des métiers qui ont du sens, dans lequel on touche à des technologies innovantes et avec finalement une ouverture sur des disciplines transdisciplinaires. Donc il y a plein de travail, et en particulier au niveau de la sécurité. On a vu à Rouen récemment des attaques qui finalement visaient pas forcément les hôpitaux, mais qui rentrent par du phishing dans les boîtes mail.
Ça va repréciser le phishing.
Ouais, le phishing consiste finalement à envoyer des masses d'emails avec pour but de récupérer le mot de passe de la boîte mail. En fait, sur un malentendu, ça passe. Statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui va finir par l'ouvrir, et donc on rentre par ce biais dans l'hôpital, et de fil en aiguille, on remonte jusque au centre névralgique pour récupérer les données, éventuellement les chiffrer et demander une rançon. Donc ça paralyse des hôpitaux. Donc voilà, ça c'est un petit message. Maintenant, on Interop est effectivement très sensible à la main tendue du point de vue de l'aide que le Health Data Hub pourrait peut déclencher pour améliorer tous ces aspects. Là où aujourd'hui il y a une rupture, c'est du point de vue de notre engagement pour le logiciel libre et le fait finalement de travailler autour d'une plateforme Microsoft, ça nous pose un problème qui est insoluble. La fédération des données, etc., ça peut se discuter, mais sur ce point-là, il y a une divergence fondamentale.
Oui, on va peut-être préciser, si c'était ce qu'on voulait faire, mais effectivement, c'était au centre des critiques qu'on peut être formulées à l'encontre du Health Data Hub, c'est que dans la construction du projet et de la plateforme, c'est la solution Microsoft Azure, donc leur cloud, donc les serveurs dans les nuages, comme on dit, qui a été retenue. C'est donc sur Microsoft Azure que seront hébergées les données de santé, donc des patients et patientes françaises, Microsoft Azure comme boîte américaine, qui vont être soumis au Cloud Act. Donc c'est une loi américaine qui donne aux autorités américaines théoriquement accès aux données personnelles stockées sur des entreprises, enfin sur les serveurs d'entreprises américaines, où que soit situé ce serveur. Et donc tout cela, de fait, génère des inquiétudes, outre effectivement le fait qu'il s'agit de Microsoft, que ce soit donc des logiciels opaques notamment. Est-ce que ça, c'est une critique, j'imagine que vous l'avez entendue, et qu'est-ce que vous en faites de cette critique?
Oui, alors c'est toujours pareil pour nous. Il y a un jeu sous contrainte, avec de multiples contraintes, et on essaye de s'en sortir au mieux dans le contexte. Donc effectivement, quand nous on a jugé important de mettre en place une plateforme avec des fonctionnalités à l'état de l'art pour permettre du coup des usages innovants type big data, data science, on en a un petit peu parlé, déchaînage de données, donc sur le plan informatique, aller bien au-delà de ce que l'assurance maladie propose aujourd'hui en la matière, qui d'ailleurs n'est pas non plus du logiciel libre, puisqu'on est sur Oracle avec le logiciel SaaS. Hein. Mais dans tous les cas, ça ne permet pas de développer des usages vraiment innovants et de tirer parti de ces masses de données. Donc on a commencé à faire un tour de piste et à discuter avec pas mal d'interlocuteurs, donc notamment des industriels français type Atos, Thales, etc. Et on est arrivé assez rapidement à la conclusion qu'aucun d'entre eux, en tout cas à l'époque, donc ça nous amène tout début 2019, n'était compatible avec la certification hébergement des données de santé qu'on avait jugé nécessaire pour notre projet, même si elle n'est pas obligatoire, contrairement au référentiel de sécurité du système national des données de santé que j'ai déjà évoqué et qui s'applique. Donc ça, c'était déjà une première contrainte, sans compter le fait que en termes de fonctionnalité, donc la capacité à mobiliser des capacités de calcul et de stockage importantes pour faire des développements d'usage innovants, c'était parfois aussi un petit peu limité. Donc on a vu OVH aussi, que je n'ai pas cité, mais avec qui on a continué d'échanger par la suite. Et puis finalement, on a vu Microsoft, AWS et Google également. Et Microsoft était du coup le seul de tous à l'époque qui était certifié HDS et qui était en capacité de nous mettre à disposition des fonctionnalités intégrées, donc pas toutes, sous des temps courts. Donc pour vous donner un ordre de grandeur comparatif, on a un projet de mise en place de serveurs de données sécurisées au ministère des Affaires sociales, avec Thales, qui a déjà 5 ans, et pour lequel on n'a pas vu l'ombre d'un serveur pour l'instant. Et Atos nous avait fait la proposition pour développer le Health Data Hub, 2 ans de développement pour environ 2 millions d'euros. Donc on s'était dit, mais comment est-ce possible en 2019 de pas être capable de monter une plateforme data science rapidement? Enfin, c'est complètement dans l'air du temps, on n'est pas à la frontière de la recherche, etc. Donc effectivement, ça, un Microsoft sait le faire puisqu'on a développé la plateforme, donc c'est-à-dire intégrer les pièces entre guillemets manquantes en 6 mois, donc avec un énorme travail sur l'aspect sécurité qui lui a duré 1 an puisqu'il a démarré avant, puis il s'est fait en parallèle du développement de la plateforme, et ce chantier sécurité s'est terminé par un audit de sécurité avec des cyberattaques qui ont été simulées sur la plateforme pour vérifier qu'elle était bien solide et robuste vis-à-vis d'attaques intérieures et extérieures. Donc, il faut comprendre qu'après, Microsoft, c'est un de nos prestataires, mais c'est pas le seul. On a des prestataires de firewall, d'antivirus, de gestionnaires de bureaux virtuels. Alors, je suis désolée, bon, j'imagine qu'autour de la table, ça vous paraît clair pour tout le monde. Mais donc, on a une palette d'outils qui sont intégrés les uns avec les autres pour assurer un cloisonnement et un haut niveau de sécurité. Et nous, ce qu'on fait, donc, on travaille avec un intégrateur qui intègre ces pièces. Donc, on a un directeur technique, un responsable de développement, mais les développements sont faits par un prestataire. Donc, Microsoft, évidemment, a été mis en avant, mais quelque part, c'est une de nos briques techniques. Et on en a plein d'autres qui sont intégrées les unes avec les autres. Et puis surtout, la plateforme, elle est opérée par des agents du Health Data Hub. Donc ça, je le précise parce que autour de la table, c'est évident, mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas forcément clair. On n'a pas confié l'opération d'une plateforme à Microsoft. On utilise un outil technologique de Microsoft, mais c'est nous qui avons les administrateurs des données. C'est les administrateurs qui vont préparer les données, les extractions, les mettre à disposition des tiers. Ce seront des gens employés du Health Data Hub qui auront des rôles très cloisonnés afin d'éviter aussi qu'on ait une faille qui vienne de l'intérieur, parce que ça, c'est tout à fait possible. Donc après, il y a la question du Cloud Act. Donc par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'on avait fait une instruction juridique et là, je vous invite aussi à regarder celle qui vient d'être publiée par les avocats démarrés sur Internet. Je vous indiquerai le lien il y a quelques jours de ça, hein, qui est très clair. Donc le Cloud Act, c'est une instruction juridique très particulière. Donc ça peut être du terrorisme ou... des choses comme ça à l'encontre d'une personne qui est impliquée et du coup le gouvernement peut demander à réquisitionner les données de cette personne. Donc moi en l'occurrence, ce serait réquisitionner dans le cadre de l'instruction les données de Stéphanie Combes. Et donc nominative très clairement. Sauf que nous, on n'héberge aucune donnée nominative. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris auprès de la CNIL à l'été 2018, de dire on n'a pas besoin des noms, prénoms, date et lieu de naissance pour la recherche. Donc on n'hébergera que des données non nominatives. Et ces données-là, par ailleurs, elles sont chiffrées. Et la clé de chiffrement, elle est gérée par un HSM, donc une boîte, un coffre-fort numérique en quelque sorte, qui lui n'est pas de Microsoft. Et la cérémonie des clés, elle est gérée au niveau du ministère de la Santé. Donc avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité avec qui on travaille sur le chantier sécurité depuis le tout début. Faut savoir aussi que nous, on est un projet très visible, hein, national. Donc, on fait des points avec l'ANSSI et les différentes équipes de l'ANSSI. Donc, c'est l'agence nationale, hein, qui est habilitée sur la sécurité des systèmes d'information. Pratiquement tous les mois au niveau des copiles et puis au niveau technique, bien plus fréquemment sur des sujets d'architecture technique ou d'analyse de risque.
Copile ?
Comité de pilotage. Donc...
Alors, sur la question de Microsoft, bon, pour les personnes qui suivent notre émission, vous connaissez les positions de l'April contre Microsoft, et particulièrement dans sa relation avec l'État en général et avec le ministère de la Défense en particulier. Mais puisque Nicolas Paris, vous évoquiez justement, vous, cette problématique que vous considérez comme rédhibitoire de la plateforme Microsoft, est-ce que vous pouvez justement développer pourquoi, pour vous, ce point est fondamental?
Du coup, moi, je voulais, pour simplifier un petit peu, revenir sur les propos du vice-amiral Coustillère, qui est en fait le président de la DSI de l'armée, de la DGNUM, et qui, en fait, retourne sa veste complètement sur les questions de Microsoft en particulier. C'est lors d'un cache investigation, il disait, je cite, je me fous des backdoors, et sans complexe, il allait vers Microsoft parce qu'en effet, il était dans un environnement contraint lui aussi, et que pour avancer, il avait besoin de services fournis par Microsoft. Mais dans un environnement contraint, on fait des choix et des choix politiques. Maintenant, à l'heure actuelle, alors voilà, on a du recul sur Prism, sur plein de problématiques dont Microsoft d'ailleurs a été partie prenante, même un des premiers, le premier à fournir des données. Et donc maintenant, cette personne va chez, enfin change complètement de doctrine et va vers OVH maintenant, en disant que en fait, c'est pour résumer simplement, donc sans parler de clés de cryptage, de en disant que pour aller vers une plateforme, il faut uniquement avoir confiance. La valeur principale, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans notre hébergeur de données de santé? Est-ce qu'on a confiance dans Microsoft? Est-ce qu'on a confiance? Est-ce que les intérêts des États-Unis sont ceux de la France? Et en fait, voilà, ça résume finalement simplement le débat, et il faut répondre à cette question-là. Est-ce qu'on a confiance en ça? Et juste pour préciser sur les données pseudonymisées, donc en effet, il n'y a pas les identifiants dans le SNDS historique et ni dans le SNDS élargi maintenant à l'ensemble des données des citoyens français. C'est une trivialité au XXIe siècle, en 2020, de faire de l'appariement probabiliste une excellente dans Nature, donc une revue qui est une revue scientifique connue. Il suffit de 15 variables démographiques pour appareiller, pour retrouver un individu. Donc, dans le Health Data Hub, il n'y aura pas...
Quoi, l'âge, le sexe, voilà, c'est ce genre de critères-là.
La commune, enfin voilà, etc. Et là, on parle donc... on parle de... Mais nous, dans le Health Data Hub, ce ne sera pas 15 variables qu'il y aura, ce sera des milliers de variables. Donc, lier des bases entre elles, et une base externe même du SNDS avec le SNDS, et réidentifier un individu, c'est quelque chose, techniquement... surtout pour des excellents ingénieurs de chez Microsoft, de faisable, je veux dire.
Oui, donc cette question de confiance, effectivement, elle n'est pas exactement résolue avec Microsoft. Moi, sur quoi je voudrais revenir, c'est sur la question HDS. Effectivement, c'est un critère extrêmement stringent qui fait que, extrêmement
hébergeur de données de santé. HDS,
voilà, hébergeur de données de santé. Qui n'était pas nécessaire dans ce contexte de données pseudonymisées, et qui fait qu'au final, on se retrouve avec un seul acteur potentiel. Il y a beaucoup d'acteurs français, hein, Scaleway, OVH et d'autres, qui proposent aujourd'hui la constitution de plateformes d'analyse big data. En une heure, on peut déployer dans des contraintes qui ne sont pas HDS. Donc, effectivement, je trouve dommage d'avoir mis le curseur si haut, c'est-à-dire plus haut que ce que la loi le demandait, hein, d'avoir le jeton HDH, là où finalement on se retrouve avec des contraintes qui sont d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre international, avec finalement d'autres problèmes qui, à mon sens, sont complexes à gérer. Sur le fait que Microsoft n'est qu'une brique, c'est une grosse brique, puisque quand même il est question de calcul. Donc les données, effectivement, les données sont chiffrées. On connaît la force du chiffrement. Les Allemands utilisent le cloud aussi. Hein, ils s'en cachent pas. Le projet allemand, ils utilisent Amazon pour stocker les données de santé. Il n'y a pas de problème. En revanche, ils n'analysent jamais les données de santé sur le cloud, c'est-à-dire qu'ils utilisent le stockage à froid, chiffré. Jamais les données vont être déchiffrées pour être, c'est un peu technique, mais analysées. En gros, on n'analyse jamais des données chiffrées aujourd'hui. C'est de la science-fiction. Il n'y a pas de plateforme à l'état de l'art qui fournit de bout en bout des données indéchiffrables. Et donc, in fine, peut-être les opérateurs sont français, mais ceux qui font la maintenance des machines sont des agents de Microsoft. Et donc, ils pourront effectivement lire en clair les informations qui seront déposées sur ces plateformes, que ce soit dans les GPU, donc les unités qui sont spécialisées pour faire du deep learning et du machine learning, enfin de l'IA, quoi. Et donc, déposer les données et les analyser sur une plateforme avec des principes économiques qui sont contre nous. Hein. Je rappelle quand même que Microsoft est en Irlande, hein. Ça veut dire qu'il ne paye pas ses impôts en France. Donc ça, c'est aussi un problème d'ordre patriotique. C'est 30% d'impôts sur les sociétés qui partent en fait en fumée. Hein. On baisse à 4 ou 5%. Bon, je ne suis pas expert sur le sujet, mais globalement... ça fait partie des critères pour moi qui posent problème.
Oui, je voulais réagir, et je pense qu'après ce que le temps file, bien sûr pour y réagir, je pense qu'il sera intéressant quand même aussi d'évoquer, et je veux qu'on ait le temps un peu de parler de ça, de qui a accès aux données, ouais, comment on y accède, etc.
Mais bien sûr. Mais je vais réagir très rapidement parce que c'est pas... Enfin, à la fin, les arguments qui ont été avancés pour certains sont tout à fait légitimes, parce qu'il y a aussi des positionnements politiques et par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Par contre, moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que pour OVH, ils ne sont pas capables de mettre à disposition une plateforme data science telle qu'on souhaite la faire en une heure. Enfin, moi, j'ai petit déjeuner avec quelqu'un d'OVH il y a 2 semaines qui a refait un travail que nous avons fait cet été, qui nous a demandé beaucoup de travail, qui est de regarder un premier plan de réversibilité, puisque on a fait ce choix de manière quand même éclairée. C'était pas un choix facile, mais la condition de ce choix, c'est qu'on soit capable d'en sortir aussi le jour où il y aurait une offre française qui serait au même niveau. Et donc, on a des ateliers régulièrement avec la DINUM qui porte la stratégie cloud de l'État. Après, on en pense ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui réfléchissent à cette question-là. Et OVH nous disait qu'il était arrivé exactement à la même conclusion eux-mêmes, qu'il leur manquait un certain nombre de briques et que si aujourd'hui on voulait migrer, il fallait développer ces briques manquantes, que ça équivalait à un montant de 1 million d'euros et à 500 jours de développement. Donc, si eux-mêmes reconnaissent qu'aujourd'hui leur offre n'est pas
et
mature...
Et à 3 ans, et dans un délai un peu plus long, les choses ne s'équilibrent pas entre quelque chose qui est déjà développé et en effet, donc il y a un coût de développement qui évidemment n'est pas nul, et moindre sûrement que chez Microsoft, mais je veux dire sur le long terme...
Pas sur le long terme, nous on estime que si dans 3 ans le cloud souverain, ça aboutit à une solution légitime, on migrera dessus, donc c'est pas... On n'est pas dans un temps long, on ne se dit pas qu'on va rester chez Microsoft pendant 20 ans, hein, donc... évidemment, ce sera tout à fait pertinent de migrer et il y a quand même des enjeux de filière industrielle française. Donc nous, on est un projet du ministère de la Santé, certes, mais on n'est pas complètement décorrélé non plus des autres ministères. Mais c'est juste pour préciser quand même qu'il y a des travaux qui ont été faits, instruits, qui ont pris du temps et qui ont été corroborés par les industriels eux-mêmes. Donc je pense pas qu'on soit... nous, on n'a aucun intérêt d'aller chez Microsoft. Et pour être clair, les discussions que ça a générées, moi, c'est à moi de les assumer derrière. Donc, évidemment que s'il y avait eu un acteur français qui avait eu le même niveau de sécurité et de fonctionnalité, ça aurait été aujourd'hui beaucoup plus pratique pour moi. Mais ce sera sans doute le cas demain. Je voudrais revenir sur la partie pseudonymisation parce qu'à aucun moment donné, j'ai voulu faire croire que les données n'étaient pas sensibles. On parle précisément de la sécurité de cette plateforme parce que les données sont sensibles et qu'il y a un risque avéré de réidentification. Et d'ailleurs, il est pour le coup... tu parlais du fait qu'on réutilisait les données depuis 40 ans. Les données du PMSI, ça a été montré qu'avec quelques colonnes, on était capable de retrouver quelqu'un de connu par ses passages à l'hôpital. Donc ça, c'est totalement avéré. Et c'est pour cette raison que le niveau de sécurité est mis au-dessus pour contrôler les usages des utilisateurs est très fort. C'est-à-dire qu'on... On fait une double authentification pour savoir exactement qui a accès aux données. On trace exactement tout ce qu'ils font. On les sensibilise au fait que c'est pénal si jamais on les prend la main dans le sac et à chercher à réidentifier leur voisine ou un homme politique, qu'ils peuvent aller en prison et payer des amendes assez chères et que le hub ainsi que la CNIL et ainsi que le comité d'audit du système national des données de santé vont diligenter des audits pour vérifier aléatoirement ce que font les gens. Donc la pseudonymisation, le fait que nous ne détenions pas de données nominatives, ça a un impact sur le Cloud Act, mais ça n'a pas d'impact sur la sensibilité des données au sens où je ne dis pas que parce qu'on a enlevé les noms-prénoms, les données ne sont pas sensibles. Par contre, ça a un impact sur le Cloud Act.
Mais de sécuriser l'accès aux utilisateurs, enfin évidemment, mais ce qui m'inquiète, c'est pas l'accès plus ou moins contraint des utilisateurs, mais l'accès de Microsoft et d'intérêts autres à cette plateforme, sans, parce que le Cloud Act c'est quand même ça. Et du coup, il y a en réponse, il y a le cabinet des Marais en effet, qui lui plutôt rassurant, mais il y a aussi d'autres rapports. Il y a le rapport Gauvin, qui est un député, sénateur Longuet, et c'est des rapports qui sont pour le coup beaucoup moins rassurants que celui d'un seul cabinet qui est le maître des Marais. Donc le point litigieux énorme, c'est Microsoft. Est-ce qu'on a confiance dans Microsoft? Et une fois que les données sont parties chez Microsoft, peut-être qu'on peut partir dans 3 ans, mais les données seront parties.
Je pense qu'il y a le Cloud Act, il y a Microsoft, c'est 2 choses différentes. Toi, tu fais référence au fait que si le gouvernement demande à Microsoft de livrer les données sur ma personne dans le cadre du Cloud Act parce que je suis prise dans une instruction judiciaire, moi, je réponds que face à ce cas de figure-là, le Cloud Act ne s'applique pas. C'est-à-dire que Microsoft ne pourra pas répondre au gouvernement. Ils diront, moi, je ne sais pas qui est Stéphanie Combe dans les données. Et ils ne peuvent pas faire un traitement pour reconstruire la donnée. Ça n'est pas ce que dit le Cloud Act. Et c'est très clair, d'ailleurs, quand on le lit. Moi, quand le sujet, on a instruit, j'ai lu le texte moi-même, on a instruit juridiquement avec des juristes et les différents avocats avec qui on a discuté ont corroboré ce point de vue. Donc après, je pense que ce sera intéressant de mettre tous les liens vers les autres rapports pour que les gens puissent faire leur propre analyse. Mais après, il y a la confiance de Microsoft, mais il y a la confiance de tous les autres. Enfin, moi, j'ai pas plus confiance en un OVH qu'un Microsoft. On sera garant de la protection des données, donc on aurait de toute manière chiffré les données, même si elles avaient été chez un acteur français.
Alors, effectivement, sur Microsoft, il y a aussi finalement, c'est le premier projet cloud de santé sur un cloudeur américain qui émerge, et c'est le principal projet du début du XXIe siècle.
Et donc, français,
tout à fait, ouais. Et donc, l'impact que ça peut avoir, c'est de décomplexer tous les acteurs qui iront tous comme un seul homme sur ces plateformes qui effectivement sont plus abordables pour plein de raisons, hein, du fait qu'elles ne payent pas moins d'impôts et qu'elles ont une force de financière beaucoup plus forte qu'en France, mais aussi les startups qui ont un intérêt à démarrer rapidement. Et alors, quand tous les systèmes français auront suivi en fait cette façon de faire, puisque après tout ils sont hébergeurs de données de santé, pourquoi pas ne pas y aller? Eh bien, il peut y avoir, comme on l'a vu au niveau de l'armement, des injonctions des États-Unis politiques. On l'a vu sur le Rafale, où ils ont refusé finalement de vendre certaines pièces qui allaient contre leur politique internationale. On peut tout à fait imaginer que des pressions soient faites, et là, non pas sur l'armée, mais sur la santé des citoyens français. On se met dans une situation, en fait, de dépendance internationale, là où d'attendre effectivement qu'OVH se renforce sur certains aspects, d'attendre que les données soient prêtes et interopérables, ne serait-ce qu'un an ou deux ans, ça me paraît finalement quelque chose de plutôt sain, plutôt que de se retrouver dans une situation d'embrasser en fait un système qui nous a à plusieurs fois fait défaut. 2007, Prism, Microsoft ont été les premiers à livrer leurs données, et là, contre toute loi et contre toute attente.
Et aussi pour rebondir, les directions des services juridiques des hôpitaux ont aussi été saisies parce que certains hôpitaux, enfin beaucoup d'hôpitaux utilisent Microsoft, et que Microsoft migre tous ses services dans le cloud progressivement. Et l'avis de certains hôpitaux et de certaines directions des affaires juridiques, c'est qu'il y a clairement un risque, et qu'en fait ça va être jurisprudence, quoi, qu'on va aller au procès, qu'il y aura un procès, et que c'est là où on saura si Cloud Act RGPD qui gagnera. Ça c'est
pour des logiciels de prise en charge ou de prise de rendez-vous. Donc, c'est des données nominatives. Il y a tous les mails, les choses comme ça, c'est des données nominatives. Donc là, le Cloud Act pourrait s'appliquer. Mais par ailleurs, il ne s'applique pas qu'aux entreprises américaines. Il s'applique à toutes les entreprises qui ont une activité économique sur le sol américain. Ça fait quand même beaucoup de monde.
Ça me peine de devoir mettre un terme à un échange qui est très intéressant. Et on mettra effectivement, on pourra communiquer les liens pour que les personnes puissent continuer le débat.
Donc c'était pas pour les données de santé, nous c'était pour les mails.
Mais c'est pas des données de santé.
Là, c'était pas dans le cadre d'un système d'information. C'était simplement les mails des praticiens. Et même pour ça,
c'est bien pire parce que c'est des données nominatives. Donc le Cloud Act rentre dans
pas de patient. Donc ça rentre pas dans la donnée de santé non pseudonymisée, identifiant directement.
Non, mais ça rentre dans le périmètre du Cloud Act.
On voit qu'il y a des échanges forcément, que ce soit à la fois la charnière du technique, du juridique, il y a des impacts géopolitiques importants, et on voit l'importance aussi de la question. Alors nous, c'est vrai qu'à l'April, nous, on milite aussi justement pour que ces questions soient, dès le début en fait, hein, des choix politiques qui sont construits, notamment lorsqu'on va approcher sur, on parle dans les notions d'innovation, etc., c'est d'intégrer directement. Donc nous, ce qu'on a préconise, hein, ce qu'on avait discuté en début d'émission sur la nécessité des systèmes fédérés, justement, qui peuvent peut-être limiter aussi pense qu'on sur cette centralité d'une base de données, c'est ça qui peut poser problème.
Ouais, moi, j'aimerais bien réagir quand même parce que je pense que c'est aussi un petit peu politique et pour le coup, c'est une position que je défends très fermement depuis mes premiers jours au ministère de la Santé sur le fait qu'on n'a pas tellement le temps d'attendre. Moi, j'ai interagi aussi avec des médecins et avec des patients et j'ai pas l'impression qu'on puisse se permettre de faire attendre alors qu'on a les données, on a les expertises et que c'est une histoire d'outils. Et donc après, on peut faire des choix à court terme qui seront différents à moyen terme. Mais si on prend la stratégie du cloud souverain qui est portée par l'État, elle a trouvé ses racines en 2014 et on est en 2020 et aujourd'hui on n'a pas de solution satisfaisante. Et je ne pourrais pas porter comme le fait qu'on doive attendre quand on voit des scandales sanitaires comme le Mediator qui ont été quand même éclairés par le traitement de la donnée de santé. Donc on pourrait aller quand même beaucoup plus loin. Les autres pays n'attendent pas. On voit les premiers dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse mettre derrière ce terme-là, qui sont certifiés par la FDA aux États-Unis depuis le printemps 2018. Et en France, on a un vrai enjeu à prendre ce virage-là maintenant parce que sinon, on va passer à côté. Et il y a des réflexions très intéressante sur l'éthique, parce que on n'en a pas vraiment parlé explicitement, mais finalement tout ça, ça rentre un petit peu dans le champ de l'éthique, sur le fait que si on n'arrive pas à développer ces innovations numériques en santé en France, ces applications qu'on aura dans notre portable dans un an, dans deux ans, elles seront développées ailleurs, là où il n'y a pas de RGPD, là où il y a beaucoup moins de contraintes. Et les gens, si ça marche, ils les utiliseront. Parce que moi, mes parents, qui suivent pas forcément tous ces aspects très techniques, eux, ils utiliseront l'application qui marche dans leur téléphone sans savoir qu'elle a été développée sur des données qui n'ont rien à voir, de manière non éthique, de manière non sécurisée, que les données ont peut-être été volées, etc. Donc je pense qu'on a un enjeu, nous, de pas rater ce virage très important et d'être leader en la matière, un peu comme on est leader dans d'autres domaines qui sont très, très stratégiques, comme le nucléaire, si vous me passez cette comparaison.
Je vous laisse peut-être du coup le mot de la fin.
C'est des arguments qu'on entend aussi dans le cadre de la développement de la 5G par exemple avec Monsieur Breton qui prenait l'ancien patron d'Atos et qui est maintenant Commission européenne et donc pareil avec des arguments de il faut aller vite parce que sinon on sera en retard et la question c'était de choisir un acteur européen ou de plutôt aller c'était les Chinois Huawei et donc là la réponse de l'Europe sur ce domaine là c'est qu'il faut être souverain et autonome dans les technologies que l'on utilise, surtout qu'il ne faut pas complexer. On a aussi des leaders, WeThings, on a aussi des leaders dans les objets connectés qui sont FDA et marquage CE médical. Donc on n'est pas en retard sur tous les fronts les hôpitaux développent leur plateforme. Enfin, il y a quand même un écosystème qui, si on le reprend et l'embrasse l'améliore, permet d'avancer. Mais la question de l'autonomie et de la souveraineté et de l'autonomie est vraiment au centre en fait du débat et c'est ce que l'armée, par exemple, a compris et recentre. Ça me semble très important. Quoi.
Oui, je dirais que attendre, c'est pas obligatoirement se tourner les pouces. Il y a énormément de choses à faire sur le volet de l'éthique, sur le volet de l'opposition des patients. Donc, je le rappelle, les patients auront le droit de s'opposer à des recherches sur leurs données. Hein, c'est un droit qui est assuré par le RGPD. Il y a aussi une quantité de choses à faire au niveau des. Donc, moi, je parle pour les hôpitaux, mais un entrepôt de données de santé, c'est entre 5 et 8 ans de mise en place. Donc récupérer les données au niveau français, on n'est pas à 6 mois près, voilà. Et entre le moment d'avoir un algorithme qui sera appris sur cette plateforme, sur son téléphone, et aujourd'hui, il va se passer un certain temps. Donc, je pense pas qu'il faille confondre vitesse et précipitation.
Malheureusement, on s'arrête là, mais en tout cas, un grand merci pour cet échange. Donc, Stéphanie Combe pour la Zeta Hub, Adrien Parot et Nicolas Paris pour l'association Interop.
Bah écoutez, merci pour ces échanges passionnants et désolé de voir y mettre un terme temporaire, mais vous êtes évidemment nos invités permanents pour poursuivre le débat. On va faire une pause musicale. Alors attention aux oreilles, on va écouter la Free Software Song par Jono Bacon. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
software at a call. What a call! We'll throw up this dirty license as evermore, evermore. China's new and share the software.
Nous venons d'écouter la Free Software Song 2 par Jono Bacon, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur april.org et causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous passons au sujet suivant avec la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Je lui passe tout de suite la parole.
Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un événement qui a lieu samedi prochain, donc samedi 1er février 2020 à Orléans. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Jean Caratala, secrétaire de l'association qui organise cet événement qui s'appelle Senabumix. Jean, bienvenue, tu es avec nous, tu nous entends bien?
Bonjour Isabella, tout va bien, je t'entends très bien, merci.
Bah super. Donc on va tout de suite dans le vif du sujet. C'est la première fois que Senabumix, donc c'est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans la région d'Orléans. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez cette journée complètement consacrée aux logiciels libres, à la culture libre?
C'est absolument la première fois, effectivement. L'idée nous en est venue puisqu'il y a 3 ans. Nous avions été à Romorantin rencontrer un groupe d'utilisateurs du libre également, des gens qui sont extrêmement sympathiques, et on avait envie, nous aussi, d'organiser cet événement, ce salon, sachant que nous avions dû différer parce que on a changé au niveau de l'association, plusieurs de nos membres nous ont quittés et il a fallu se restructurer, voilà. Donc aujourd'hui, cet événement est important pour nous parce que nous avons besoin nous voulons faire connaître le libre auprès du public orléanais et nous souffrons un petit peu d'un manque de communication, d'un manque de visibilité.
Donc voilà, c'est aussi pour faire connaître l'association, c'est ça?
C'est vraiment ça.
Le libre et l'association.
Le libre et l'association, absolument.
Très bien. Et la journée, en fait, elle est très riche en événements. C'est de 10h à 18h et je vois qu'il y a déjà, le programme est bien fourni. Il y a plein de conférences, activités, ateliers différents. Est-ce qu'il y a des points forts pendant cet événement que tu souhaites mettre en valeur?
Eh bien, écoute, de toute façon, oui, il y a plusieurs conférences, enfin, conférences ou présentations. J'aime pas trop le terme conférence parce que je trouve que c'est un petit peu pompeux.
Intervention, oui, c'est aussi bien.
Oui, intervention.
Tout à fait.
Donc, on va présenter d'abord le libre. Hein. Ensuite, eh bien, on va parler de l'April, hein, de son rôle et de ses actions. De la quadrature du net également, puisque je crois que c'est important de savoir les combats qu'il mène. On va également évoquer le règlement général sur la protection des données. Et puis, on va évoquer également Framasoft avec comment dégoogliser Internet. Parce que ça, c'est hyper important d'utiliser des outils libres et qui ne soient pas invasifs et intrusifs, pardon, au niveau des internautes. Voilà. Ensuite, eh ben, il y a des sujets qui sont un petit peu spécifiques. Un de nos, ce n'est pas un de nos adhérents, c'est un utilisateur du libre qui va nous présenter un outil qui s'appelle Mensura, qu'il a mis au point, ce qui permet de faire des mesures scientifiques avec des logiciels libres.
D'accord. Après, donc il y a des interventions, on va dire, plus générales. Il y a la les présentations des trois principales associations autour du libre en France, et puis il y a des choses un petit peu plus spécifiques. Oui. C'est quoi le public que vous visez du coup?
Ça sera tout public, hein, mais on vise également des jeunes parce que il y aura un atelier coding goûté qui sera fait.
J'avais vu. Très bien.
Voilà. Et d'autre part, on a le réseau Canopé d'Orléans qui vient également et qui va faire des présentations sur ce thème. Et nous sommes très très heureux de pouvoir accueillir cette organisation, d'autant que le réseau Canopé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, c'est bien si tu peux faire une petite présentation de ce qu'ils font, c'est très bien. Ça peut être l'occasion.
C'était ce qu'on appelait auparavant le centre régional de ressources pédagogiques qui est destiné, si tu veux, aux professeurs, aux élèves, dans leur à la fois pour les aider pour un fonds bibliothécaire et également pour les étudiants, pour l'orientation. Et donc aujourd'hui, il est un petit peu en danger parce que je pense que ce sont des questions de budget. Tout va être rapatrié au niveau du rectorat. Et bon, voilà. Mais je n'en sais pas trop plus à l'instant, mais en tout cas, on est content d'avoir ces gens-là qui viennent avec nous.
Et moi, je suis content de savoir que vous avez prévu aussi des activités plus spécifiques pour les plus jeunes. C'est pas le cas pour tous les événements, donc c'est très bien. Est-ce que c'est un événement les informations pratiques maintenant? Est-ce que c'est un événement où il est nécessaire de s'inscrire? Il faut payer pour l'entrée ou c'est un très
libre? C'est vraiment une présentation, un salon qui sera entièrement gratuit, qui sera tout public. On en profite également pour passer le film Nothing to Hide. Tu excuseras mon accent, mais je vois déjà.
C'était largement meilleur que la plupart des accents que j'ai entendus en France, t'inquiète.
Voilà. Et c'est vrai que c'est important de faire connaître auprès du public ce qui se passe réellement dans le monde de l'Internet avec ce que font les GAFAM, qui est vraiment, je trouve, très très préoccupant pour nos libertés et puis pour la protection de nos données.
Très bien. Et une dernière question, est-ce que vous avez été supporté par la commune pour ce type d'événement?
Alors, très honnêtement, non. Très sincèrement, non.
Est-ce que vous avez cherché du support de la commune?
Non, nous n'en avons pas cherché. Alors, tout simplement parce que on a décidé cette action au mois d'octobre. Hein. Donc, c'était un peu tard pour aller D'accord. à la chasse, aller chercher des subventions. D'autre part, Sénabumix est intervenu à plusieurs reprises dans quelques médiathèques de la région et auprès de quelques organismes. Et disons que nous avons à cette occasion récupéré un petit peu de recettes, si tu veux. Notre budget annuel est relativement limité. Mais ça, on a considéré que ça ne servait à rien non plus de garder de la trésorerie pour rien. Et on a décidé d'investir sur ce salon sachant que bon, ben, ça va nous coûter un petit peu d'argent, mais tant pis, les recettes que nous avons, elles sont là pour ça. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que si on arrive à reprogrammer une action de ce type, et je pense que cette première sera pour nous un bon indicateur, là nous serons obligés certainement d'aller chercher d'autres ressources auprès de la commune ou de la métropole ou bien de la région ou du département.
Très bien, donc il ne me reste plus qu'à souhaiter un grand succès pour cet événement. L'April sera également présente. Et je te remercie beaucoup, Jean, donc secrétaire de l'association Sénambix, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt.
Merci beaucoup et bonne continuation et bravo à l'April pour tout ce que vous faites, c'est vraiment formidable.
Merci beaucoup.
Merci Jean. On va juste citer le site web sur lequel vous retrouverez les informations. C'est senabumix.org. Et pour les gens qui rêvent de rencontrer en direct et en live Isabella Vanni, elle sera au salon le 1er février à Orléans et animera notamment le jeu du gnou. On va passer donc aux annonces. Donc, principale annonce, je regarde, eh bien bon, ben, vous avez le 30 janvier 2020, donc à Paris, un événement autour des ONG, l'action humanitaire et logiciels libres, avec la présence notamment de Laurent Costi, administrateur de l'April. Le 1er février démarre aussi à Rennes le Festival des Libertés Numériques qui se poursuivra jusqu'au 16 février, donc n'hésitez pas à y aller. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm une page avec toutes les références utiles. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 février 2020. Nous parlerons d'éducation. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.